ce soir sur Campus Grenoble
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Je sais pas vous, mais des fois je me dis que sur cette petite planète bleue, on a déjà fait le tour de pas mal de questions, et ce, dans un paquet de domaines. C'est vrai quoi, est-ce qu'il y a encore des choses à inventer? Il suffit de penser à un truc, le taper dans Google, et se rendre compte que quelqu'un a déjà eu l'idée, quelqu'un l'a déjà fait. Tu peux penser à n'importe quelle idée, de la plus savante à la plus conne, quelqu'un l'a déjà fait. C'est un petit peu blasant. Et alors, quand on parlait de sport, pour moi, bah tout était déjà là. Tu regardes les disciplines proposées au JO, tu ouvres le journal L'Équipe, le matin au café, bah voilà, tu vois à peu près le monde sportif dans toute sa diversité. Et pourtant, c'était évidemment oublié que nous autres bipèdes avons une imagination plus fertile que l'Amazonie en train de cramer, bien plus profonde que le puits de mon grand-père. Bien sûr qu'il y a encore des pionniers, bien sûr qu'on invente encore des choses. Tenez, il y a quelques années, j'ai vu de mes propres yeux un match de Quidditch. Le Quidditch, tu vois, le sport là sur balai que l'autrice transphobe d'Harry Potter a inventé dans ses bouquins. Franchement, j'étais fasciné de voir comment les personnes sur le terrain s'étaient réapproprié ce sport littéraire et imaginaire pour en faire là, au sol, devant moi là, un vrai sport. Un truc où on se marre, où on se défoule, où on tente de respecter des règles pour vivre un moment collectif. Bon, tout ça pour te dire qu'il y a quelques années, j'ai découvert qu'une nouvelle discipline émergeait ici et là et par-delà les frontières. Un beau jour, des petites malines, des petits malins, anglais et américains évidemment, s'étaient dit « Eh, mais si on métissait tel sport avec tel autre, tiens, si on prenait les règles de celui-ci, et puis tiens, tu utilises le matos de l'autre, et hop, allez, yalla, on teste le truc. » Je reste un peu flou parce que vu qu'on parle de sport, et donc de jouer, on va commencer l'émission ensemble avec un petit jeu. On va écouter un petit reportage, et je vais vous demander, vous, chers auditeurs, d'enquêter avec les indices sonores qui vont arriver au fur et à mesure pour peut-être trouver le sujet de l'émission de ce soir. La première qui trouve, elle appelle la radio et on lui offre un grand voyage de 3 semaines all-inclusive au Venezuela et au Groenland. Allez, on part donc glisser nos oreilles un beau dimanche matin de décembre au milieu d'un parc en banlieue de Grenoble où je suis tombé sur une bande de personnes qui faisaient des trucs un peu bizarres.
Depuis tout ce temps, on les utilisait pas bien. Lancer des potes de très loin, ben.
Ah oui, mais tu le prends à l'envers, mais tu le lances comme un revers.
Les potes de très loin, je vais essayer que le truc il ralentisse pour qu'il tombe pas loin de la corbeille. Quoi.
Ah, il était pas loin. Attends.
Par groupe, on est par groupe de 3 ou 4. Et les, ben, en tant que débutant, on a des gens qui sont plus aguerris que nous et souvent ils connaissent déjà les règles, ça nous permet de partager et...
voilà. Et puis il y a une règle un peu des règles un peu bêtes, genre il faut identifier son disque avec son nom. Bah en fait c'est juste que si jamais il y a deux disques pareils dans ouais. un lancé, on peut pas avoir le double du truc quoi. Donc voilà, ça c'est des petits trucs, faut un marqueur dans son cercle.
Nous on les a identifiés, c'est surtout parce qu'on les perd.
Ouais, c'est ça, ouais.
Ça, nous permet, ensuite, ça nous permet de les retrouver parfois.
Ça devient très dur en étant pas beaucoup plus loin. Ouais, alors que l'approche,
ouais.
on se met à 5 mètres, 6 mètres, 7 mètres, c'est quand même réussi. Enfin, je veux dire, ça reste quand même une belle approche. Alors que le pote à 5 mètres, à 6 mètres, à 7 mètres, il est beaucoup plus difficile. Quoi. Donc ça, la difficulté elle augmente très très vite. Et du coup, moi ce que j'essaye de faire quand je fais un pote, déjà c'est d'être bien sur mes appuis. Le point de règle, si tu potes et que après tu fais un pas, bah, tu prends une pénalité, donc ça sert à rien. Donc on est bien sur ses appuis. Et après... je vais changer mes positions de pied ou mon corps que si j'ai un obstacle, un arbre, une forêt, un truc qui va me nécessiter de changer de position pour être un peu plus à droite ou un peu plus à gauche. Mais sinon, j'ai une position qui est toujours un peu la même. Et ce que moi je me dis, c'est que, un peu comme aux fléchettes, il faut que dans l'axe de ma vision et l'axe de l'objectif, il faut que mon disque soit là. Pourquoi ? Parce que du coup, je vais pouvoir lui donner une trajectoire que je vois. Parce que quand on lance un disque en approche, on a le disque sur le côté comme ça. Et en fait, bah, du coup, on est complètement jugé sur la trajectoire. C'est pas précis. Alors que si on se tourne et qu'on le voit, en fait, on a la direction qui va pouvoir aller vraiment à l'objectif des chaînes. Et après, le dernier truc, je pense que comme vous avez déjà un peu lancé, je vais aller rapidement sur les trucs, mais pour moi, il faut que le disque il soit à plat. Parce que quand il est à plat, il vole droit. Et du coup, plus il vole longtemps à plat, plus il va être longtemps dans l'axe de la corbeille. Et du coup, peu importe la force qu'on lui a mis, on lui a mis très fort, moyen fort ou un peu fort, il va avoir toujours cette direction droite qui va passer par les chaînes et qui va faire que c'est gagnant. À partir du moment où on le penche, on fait une courbe penchée, quand on change un petit peu la puissance, et ben on va changer et la profondeur, bon, parce que ça fait des courbes comme ça, donc ça fait des ellipses qui vont de plus en plus loin, donc on change la profondeur et on va changer la hauteur aussi. Donc là, c'est un petit exo que j'ai préparé là. Ça joue avec trois disques. Soit on en met zéro et on repart du plus haut le plus proche. Si on en met un, ça joue avec deux disques. 0, 1, 2. Et comme ça, on peut s'éloigner un petit peu. Alors après, peut-être qu'il faut régler la distance. Moi, j'ai mis comme je pensais que c'était bien.
J'ai l'impression souvent d'avoir mon bras qui se balade en fait. J'ai l'impression de ne pas être fixé.
Est-ce que tu le vois dans l'axe ton disque quand tu le lances ou pas?
Et non, pas toi. Justement, un coup j'ai l'impression que je lance peut-être vers le haut, vers le bas.
Alors, moi je lance plutôt un peu du bas vers le haut.
Ouais, ouais.
Mais parce que après quand je m'éloigne, il y a ces trucs de cloche un peu.
Ouais,
donc,
bien sûr.
Plus je fais la cloche, après plus je vais monter.
Ouais.
Et c'est bien de pas trop changer son geste parce que sinon on perd le. Ouais, on va essayer, alors je ne sais pas comment expliquer.
Si tu peux passer par-dessus,
ouais.
Tu dis quoi, lancer, enfin, comment tu t'enlèves sur la
planche,
si
la cloche,
elle va.
Alors ça, ça arrive, c'est gêneux.
Ça, on sent la cabane à insectes,
ouais, ben
du
ouais.
Trou numéro 4.
moi, je prends le disque en side,
okay.
Et je le lance à l'envers.
Ah ouais.
Ok.
Parce qu'à l'envers, il vole mal. Et quand il tombe, il reste. En général, il roule pas ni rien. Et du coup, je vais faire un espèce de truc comme ça. Il n'y a pas de restriction.
C'est comme
on veut.
C'est ça qu'après, il est.
Alors, des disques, des trous, des putts. Est-ce que vous avez deviné ? Est-ce que vous avez une petite image dans votre tête ? En tout cas, on commence à y voir un peu plus clair, mais notre invité va nous aider à sortir un peu du brouillard. On accueille donc ce soir dans l'apérophonie Julien Mello, membre du club Monkey Grenoble. Salut Julien.
Salut.
Bienvenue.
Merci.
Dans l'apérophonie.
Merci.
Et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci à toi.
Bah, ça me fait plaisir.
Alors, le suspense est insoutenable, Julien. De quoi on va parler ce soir ? De quel sport va-t-on parler ensemble ?
Eh ben, on va parler du disc golf. Donc.
Alors, dis-nous tout sur le disc golf. Qu'est-ce que c'est ? On a compris qu'on avait des frisbees, qu'on les lançait. On entend assez régulièrement des bruits de chaînes là qui vibrent. Mais est-ce que tu peux peut-être pour en introduction de l'émission, pour que tout le monde sache un petit peu de quoi on va parler, nous expliquer un petit peu comment ça marche, peut-être les règles du jeu, etc.
Ok, et ben le disque golf, on reconnaît deux mots à l'intérieur. Donc on a le disque, en français on parle aussi de frisbee. Et le golf, comme le golf qu'on connaît avec des clubs et des trous. Et là on va jouer en fait avec des frisbees. Et l'objectif va pas être un trou, va être un panier. Ça se joue à l'extérieur. C'est un sport de plein air. En général, on est dans des parcs. plus particulièrement, c'est contrairement au golf traditionnel qu'on connaît avec les balles, là on va plutôt être dans des parcs ouverts où on va pas complètement fermer l'espace. Et c'est les gens qui jouent au disque golf qui vont faire attention aux passants, qui vont faire attention aux autres utilisateurs. Et c'est quasiment jamais dans des endroits fermés comme on peut connaître au golf, qui sont très sélectifs, etc.
Donc on peut se mettre n'importe, on peut jouer n'importe où dans la nature.
En effet, mais si on n'a pas de panier avec soi, c'est quand même beaucoup moins satisfaisant. Ce qu'on a entendu un petit peu dans le reportage, le petit bruit de chaîne quand on arrive à l'objectif, c'est quand même ce qui est assez satisfaisant dans le sport, vraiment d'avoir réussi ou pas réussi. Et puis on parle d'un sport de précision, donc en fait. Si on est à peu près arrivé et si on est vraiment arrivé, bah, c'est pas du tout le même plaisir. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut cet objectif. Après, là, sur l'initiation qu'on a entendue, j'ai amené un panier qui est pliable. Donc, en fait, on peut le transporter de partout.
C'est ça, j'allais te demander, est-ce que c'est mobile ou est-ce que c'est des paniers fixes qui sont déjà quelque part, quoi ?
Alors, comme il n'y a pas beaucoup d'installations, notamment en France, on s'équipe avec des paniers mobiles et puis on va jouer avec des copains dans le parc. Mais nous, ce qu'on préfère, c'est vraiment d'aller sur des terrains qui sont installés pour ça. Et on a de la chance à Grenoble, comme ça fait quelques années qu'on joue, on a quelques installations autour de Grenoble qui sont permanentes ou semi-permanentes. Donc là, nous, on joue à Jarry, dans le parc du Clos-Jouvin. Il y a un parcours à Saint-Nizier-du-Mauchrotte qui est sur le site du Tremplin. Donc c'est un site quand même qui est vraiment, vraiment très joli. Et puis l'été à Champs-Rousses, il y a aussi un parcours qui est installé en permanence. Donc on a trois endroits où aller jouer. Malheureusement, on n'a pas encore dans l'agglo grenobloise, alors que ça pourrait très bien être à l'Île d'Amour ou à Bachelard ou des choses comme ça.
Petit travail.
Ouais. Après, il faudrait qu'on ait des joueurs et des joueuses qui viennent nous rejoindre.
On reparlera, si tu veux bien, justement la question du nombre de parcours et des parcours et comment justement on peut les développer en France. Et pour continuer peut-être un peu sur le comment on y joue, est-ce que c'est un jeu qui est solo ? Est-ce qu'on peut y jouer en équipe ? Quel type de matériel au-delà du... Est-ce que c'est juste le panier et un frisbee lambda qu'on utilise ?
Alors non, bien sûr, donc il y a des règles, donc c'est des règles internationales. On joue en général une compétition en 18 paniers. Donc sur l'image un peu des 18 trous du golf, donc on a 18 parcours avec un départ, une arrivée. Et le principe du jeu, donc c'est plutôt un sport individuel où on va partir d'un départ pour arriver au panier en comptant le nombre de coups et en faisant le moins de coups possible. Généralement un par on parle d'un par pour le nombre de coups pour un parcours, donc un par c'est 3 coups. Après, ça peut être 4 ou 5 coups si les parcours sont longs. Et on va tourner, on appelle ça tourner, faire une ronde sur les 18 paniers avec d'autres joueurs. Et on va comme ça évoluer d'un parcours à l'autre. Alors, je disais plutôt un sport individuel parce qu'effectivement, on est seul en face de son frisbee. Donc, on va le lancer une fois. Il va tomber à terre à un endroit. Il va s'arrêter à un endroit. S'il est dans le terrain de la zone de jeu, on va à cet endroit-là et on repart de cet endroit pour faire notre deuxième lancer, etc., jusqu'à arriver à l'objectif. S'il est hors de la zone de jeu, ben, y a des pénalités, il y a des règles en plus qui s'appliquent.
Et du coup, tu disais là en moyenne, je sais pas, 4-5 coups à peu près pour arriver au panier, c'est ça ?
On va dire 3 généralement,
voilà, 3
et des fois
bon.
4 ou 5.
Et du coup, pour peut-être se faire une idée, quand on démarre, le panier en moyenne, il est à quelle distance du départ ?
Alors, on va dire qu'un panier qui est à 60 mètres, c'est un panier qui est très court. Et puis, on peut monter jusqu'à 200 mètres, 160 mètres, 200 mètres pour les très très longs parcours. Sachant que, un lancer, une personne, on va dire, qui a déjà un certain niveau, sur le lancer le plus loin, qu'on appelle le drive, il va parcourir une centaine de mètres. Pour un bon joueur quoi, ou une bonne joueuse.
Du coup, sur le matériel, est-ce qu'effectivement un panier, un frisbee et yalla, c'est parti, on va se caler dans un parc, on peut jouer, est-ce qu'il y a besoin d'autres choses ?
Alors il y a pas mal de trucs, donc en fait on pourrait croire qu'il suffit d'un frisbee, mais en fait là j'en ai amené avec moi, bon, si je me retends un peu J'ai besoin de les regarder. Donc en fait, on a plusieurs frisbees différents. C'est des frisbees qui sont homologués pour le disc golf. C'est pas le même que le frisbee, l'ultimate frisbee. C'est pas un frisbee lambda qu'on peut acheter à Decathlon. Donc il y a des disques spécialisés. Et donc la particularité des disques, c'est qu'ils n'ont pas le même vol. Ils n'ont pas les mêmes caractéristiques. Et du coup, on va distinguer trois familles de disques. On a ceux qui vont dans le panier, qu'on appelle les putters, qui ont un vol plutôt droit, mais qui vont pas faire des grandes distances.
Donc, on les utilise plutôt à la fin, quand on est proche du panier.
Proche du panier. Ensuite, on a des disques qu'on appelle les mid-range ou les disques d'approche, qui ont un profilé déjà un petit peu différent, qui permettent déjà d'aller un peu plus loin, mais qui restent assez précis. Et on a la troisième catégorie de disques, on peut voir qu'ils sont vraiment très très profilés, très aérodynamiques, et qu'on va appeler plutôt les drivers, et qui vont plutôt loin. Donc en général, quand on commence, on va avoir un driver en premier, ensuite on va faire une approche, ou quand le jeu est un peu plus fermé, on va être plus précis avec un disque d'approche, et puis ensuite, à la fin, on va finir avec son putter. Et là, je simplifie un peu les choses, mais en fait, y a énormément de disques différents. Et chaque personne, en fait, va choisir avec soin quel disque ils vont utiliser, parce qu'il y a un effet un peu de répétition. Et du coup, on ne peut pas passer d'un disque à l'autre comme ça, sans avoir un peu travaillé son lancer. C'est encore c'est un sport de précision, donc il faut faire attention.
En fait, si on file un peu la métaphore toujours avec le golf, c'est comme quand on fait du golf, on a différents clubs. Vous avez différents disques, quoi.
Ouais,
parce que c'est vrai que quand on voit les personnes qui font du disc golf, de façon un petit peu pro, on va dire, ils se traînent toujours avec un sac à dos là, rempli de je sais pas combien de disques, quoi.
Moi, j'en ai à peu près 15 quand je fais une compétition. Ouais. Donc un disque, ça fait à peu près 170 grammes, donc on a un petit sac quand même à porter. Et voilà. Et dans son sac, on va retrouver pas mal de petits trucs. Donc là, j'ai un disque qui est plus petit que les autres. Ça s'appelle un mini. Et en fait, il va falloir marquer l'endroit d'où on va jouer notre prochain coup. Donc en fait, on va placer ce mini juste pour avoir un repère sur le sol et savoir de quel endroit on va pouvoir jouer. Donc ça, c'est essentiel. Mmh. Et puis, on a souvent une serviette parce qu'en fait, on joue dans la nature et l'herbe, souvent, elle est mouillée. Donc c'est assez humide. Il faut pouvoir avoir un bon grip sur sa main. Donc on va faire attention à ça. Et après, on peut avoir un télémètre pour mesurer la distance à laquelle on a lancé. On peut avoir une perche télescopique pour aller chercher les disques dans les arbres ou dans la rivière quand on les a perdus.
Donc, parce que du coup, on est dans la nature, quoi.
C'est ça.
Donc, tu peux envoyer ça dans les orties, il peut se bloquer dans un arbre.
Exactement.
Okay. Ce qui arrive régulièrement, du coup.
Ça arrive assez souvent, ouais. On perd assez souvent des disques, surtout dans les zones où il y a des lacs ou des endroits inaccessibles. Mais bon, ça fait partie du jeu et on essaye que le fairway, donc l'endroit où on est à l'intérieur du terrain, on n'a pas de danger, on n'a pas de zone trop boisée, etc. On essaye de délimiter le terrain comme ça.
Ça reste des disques en plastique ?
Oui, il n'y a que du plastique et en fait c'est assez fin. En fait chaque fabricant a plusieurs plastiques différents. Et en fait, on va trouver différentes qualités de disques. Et quand on est un peu geek du frisbee, on va être très, très regardant sur la qualité du plastique. Et il y a plein de gens qui se sont pensés là-dessus. Ça vole mieux, ça vole moins bien. C'est très fin.
Du coup, au niveau du terrain, ce qui me paraît super intéressant, c'est que du coup, tu peux choisir par exemple, des terrains ultra vallonnés ou ultra accidentés avec du relief. Un moment avec de la forêt, un moment avec un ruisseau, tu peux choisir du coup des éléments naturels qui vont créer ton parcours et puis des obstacles, quoi.
Ça va être un peu l'objectif, ouais. Nous quand on imagine un parcours ou qu'on discute avec les copains pour faire quelque chose d'intéressant, on va chercher ce genre de contraintes, parce que si on a juste des paniers tout droits comme sur un terrain de foot, il n'y a pas trop d'intérêt dans le sport, quoi.
Toi du coup, Julien, comment t'es arrivé à ce sport là C'est quoi
Alors
qui
moi,
qui t'a
j'ai commencé à jouer à l'Ultimate Frisbee en 2007.
Tu peux nous préciser ce que c'est l'Ultimate pour ceux et celles qui ne le savent pas ?
Alors l'Ultimate Frisbee, c'est un sport co, comme sur un terrain de foot, donc c'est la moitié de la largeur d'un terrain de foot, on joue à 7 contre 7. Et voilà, c'est un sport de frisbee où on va marquer des points un peu comme au foot, etc. Donc moi, j'ai joué pendant longtemps au club des Monkeys, du coup, à l'Ultimate. Et j'ai découvert le disc golf dans un week-end club. On appelle ça un week-end club qu'on faisait une fois par an, où justement, on essaye de faire un petit peu autre chose. Et il y a des personnes qui avaient apporté du matériel de disc golf. Et on est allé dans le Vercors avec nos frisbees. Et j'ai adoré ça. On est parti en balade pendant 2-3 heures. Et on se donnait des objectifs sur le chemin. Et donc moi, ça m'a bien parlé. Et puis est arrivé un moment où j'ai plus trouvé ma place dans les équipes d'Ultimate en sport co, parce que ça demandait d'être dans l'équipe, d'être investi, etc. J'avais plus l'investissement nécessaire. Et en fait, j'ai découvert dans le disc golf une place qui me plaisait bien. Et en fait, j'ai accroché un peu à la progression personnelle, en fait, parce que c'est assez précis et que c'est bien encadré. En fait, on peut mesurer sa progression d'une manière assez précise. Et du coup, moi, c'est un peu le graal du sport, d'essayer d'avoir de la progression sur son année. Et en fait, on peut trouver un intérêt même sans être tout un groupe, quoi.
J'ai entendu une petite blague de votre petit milieu qui est que le disc golf, c'est un peu la maison de retraite de l'Ultimate.
Ouais, en fait, il n'y a pas de... Il n'y a pas de cardio au disc golf, donc on est à l'Ultimate, on est toujours en train de courir dans tous les sens et c'est assez physique. Le disc golf, c'est de la marche, donc ce n'est pas du tout le même effort.
Mais est-ce qu'il n'y a que des gens qui ont fait de l'Ultimate qui font du disc golf ?
Pas du tout, non, il y a des gens qui ont commencé à jouer au disc golf directement, il y a des gens qui jouaient au golf et après qui sont mis au disc golf. Après, effectivement, des gens qui sont passés de l'Ultimate au disc golf, il y en a quand même pas mal, mais c'est pas obligatoire, quoi. Il y a vraiment... D'ailleurs, c'est difficile de gommer ses défauts de lancer, parce que quand on lance un disc d'Ultimate, on ne le lance pas du tout pareil qu'un disc de golf, et du coup c'est assez dur de gommer ses habitudes quand on change de sport, quoi.
Là du coup, est-ce que au niveau du club là, par exemple des Monkeys là à Grenoble, vous avez tous les âges au niveau du disc golf ou c'est quand même plutôt des adultes?
Alors ce qu'il faut bien voir, c'est qu'au club des Monkeys, il y a énormément de joueurs d'Ultimate, il y a à peu près 200 personnes au club. Et le disc golf, on est une petite dizaine, donc on utilise aussi le club pour avoir une structure, mais c'est pas le sport dominant de notre association. Et au niveau des âges, je dirais qu'on a tous à peu près la quarantaine. On avait une personne qui avait plus de 70 ans, mais elle joue plus chez nous, mais elle continue de jouer ailleurs. Donc c'est un sport, oui, qu'on peut jouer assez vieux, et c'est aussi pour ça que je me projette là-dedans en me disant que je pourrais y rester quelques années, quoi.
Sachant que tu n'es pas très vieux.
Mais on cherche quand même plutôt des nouveaux joueurs jeunes. Ça serait sympa de pouvoir faire partager ça. Et avec des ados, tous les enfants que je connais, c'est un peu des fils de joueurs ou joueuses. Par ailleurs, mais c'est dommage parce qu'en fait, je pense que ça peut intéresser aussi d'autres jeunes.
On va justement parler de la structuration et le développement du disc golf en France, dans le monde. Mais avant ça, on va se faire une petite pause musicale et on va rester dans la thématique. On va écouter le titre Golf Girl du groupe Caravan.
I chanced upon a golf girl selling cups of tea. She asked me, did I want one? Asked me with a grin. Threepence, you can buy one, full right to the brim. So of course I had to have one. In fact, I ordered three, so I could watch the golf girl, could see she fancied me. Then later on the golf course,
started raining gold balls. She rejected me, her name was Pat. And we sat under a tree. She kissed me, and we go for walks in fine weather.
Allez, on est de retour sur l'apérophonie, l'émission de Radio Campus Grenoble, dédiée à l'actualité en circuit court, vegan, bio, équitable. Ce soir, nous accueillons Julien Milo, membre du club d'Ultimate et de Disc Golf Les Monkeys à Grenoble, pour papoter du disc golf. Ce sport qui, ben, comme son nom l'indique, a réussi un mariage assez improbable entre le golf et le lancer de disque. Pour reprendre un peu le fil de notre conversation, Julien, je voulais qu'on avance sur la question de l'organisation et du développement du disc golf en France. Puisqu'en général, quand on parle de sport, en tout cas sur les sports les plus connus, il y a toujours un petit peu deux volets, deux mondes un peu qui avancent un peu en parallèle. Il y a le monde du loisir, le monde amateur, et puis le monde professionnel qui va se structurer avec des fédérations, des clubs, des équipes, une équipe de France, etc. Je voulais savoir ce qu'il en était au niveau du disc golf. Est-ce qu'on en est déjà là, en tout cas en France ?
Eh ben oui, tout à fait. Donc je dirais que c'est un sport en cours de développement. Je vais peut-être commencer un petit peu avec l'historique. Du coup, le sport, il est quand même né aux États-Unis. Dans les années 60-70, donc c'est là-bas qu'on a le plus gros effectif et le plus de gens qui jouent. En France, je dirais que c'est plutôt ces 10 dernières années que le sport se développe. Là, j'ai compté, l'année dernière, il y a eu un championnat de France par équipe. Tout à l'heure, on disait que c'était un sport individuel, mais il y a aussi des championnats par équipe. Il y a 13 clubs qui ont été représentés dans ces championnats-là. Je pense que à la fédération française donc des sports de disque inclut et l'ultimate et le disc golf. On a parlé un peu de l'ultimate tout à l'heure. Et donc c'est la fédé française qui va faire le lien avec la fédé internationale qui est en fait la fédé américaine qu'on appelle PDGA. Et donc du coup tous les joueurs de disc golf dans le monde ont un numéro PDGA, sont enregistrés à la Fédé internationale, enfin tous les joueurs compétitifs, parce qu'il y en a plein aussi qui peuvent jouer en loisir sans tout ça. Et on peut jouer ensemble, se comparer. Et voilà, donc là j'ai regardé récemment, donc il y a 126 000 licences PDGA actives dans le monde. Okay. Et si je regarde les licences françaises, on est à peu près 600. Donc on est plutôt petit. Et si je regarde un petit peu plus large au niveau de l'Europe, c'est vraiment dans les pays d'Europe du Nord que le sport s'est énormément développé. Donc Suède, Finlande, Norvège, Estonie, où là on a des parcours de partout, plusieurs parcours par ville, et avec un gros vivier de joueurs. Et ça se développe petit à petit en Pologne, en Allemagne, en France, où on est dans des pays où on est en train de développer.
C'est ça, j'allais te demander. Est-ce que du coup, toi, tu as la sensation qu'en France, c'est en train quand même de grimper, quoi, de se développer ?
On peut voir qu'il y a plusieurs projets de parcours en même temps sur le territoire français. Donc, on imagine que ça va décoller. Et après, je pense que c'est par les infrastructures qu'on arrive à attirer des joueurs, joueuses. Et du coup, c'est un peu... Quand on veut installer une infrastructure, la première question qu'on va nous poser, c'est est-ce que vous avez des pratiquants et des pratiquantes ? Et du coup, ça fonctionne pas, quoi.
C'est le serpent qui se mord la queue.
Il y a quelque part un moment où il va falloir, je pense, essayer d'installer plus de parcours pour justement que les gens connaissent et que ça, en voyant les paniers dans les parcs.
Les gens
se
disent,
c'est quoi ce truc ? Ça a l'air marrant, je vais essayer.
J'ai vu qu'il y avait 10 000 parcours dans le monde, environ, un petit peu plus, en tout cas, on va dire 10 000, dont 80% effectivement sont aux États-Unis. Mais j'ai vu quand même qu'en Europe, on était un peu à la deuxième place sur le nombre de parcours, et qu'en France, il y en a à peu près 110. J'ai trouvé une carte aujourd'hui, là, peu interactive, qui nous disait qu'il y avait 110 parcours actuellement en France. Je sais que toi, justement, c'est ce que tu viens de dire, tu travailles un peu là-dessus sur le fait d'essayer de créer des parcours, de développer des parcours. Quelles sont les autres contraintes au-delà, effectivement, d'avoir peut-être, je sais pas, des maires qui vont vous dire « Ok, vous êtes combien ?» Une fois que, imaginons, un maire te dit « Bon, ok, pourquoi pas ?» C'est quoi les galères encore qu'il y a derrière pour monter un parcours ? Est-ce que c'est compliqué ? Qu'est-ce que ça demande comme énergie ?
En vrai, c'est assez simple au final, parce que justement, on ne va pas occuper le parc en entier. On va poser des paniers. Bon, on peut trouver ça joli ou pas joli. Bon, je ne vais pas m'étendre sur la question.
C'est pas très grand au final, hein, quand même.
Non, le panier n'est pas grand. Et par contre, on peut faire des départs plus ou moins gros. C'est-à-dire qu'un vrai départ d'un parcours américain, il va faire 2 mètres de large, 4 mètres de long, ça va être une dalle bien plate, etc. Mais nous, on a plein de parcours où y a juste une balise, un poteau avec une affiche, et puis ça peut suffire aussi, quoi. Donc on peut très bien installer des parcours de manière assez simple. Et c'est pas non plus très cher comme investissement par rapport aux autres infrastructures sportives qu'on peut avoir dans les communes. Et du coup, on sait pas trop comment se positionner, parce que effectivement, c'est pas non plus un projet de terrain de foot ou un projet de terrain de padel ou un truc comme ça. C'est beaucoup moins cher, mais ils savent pas. On n'a pas trop de place dans les mairies. On sait pas trop comment amener la chose. Et puis comme les gens connaissent pas le sport, c'est plus difficile à promouvoir, quoi.
En début d'émission, tu nous disais justement que là, dans l'agglomération grenobloise, il y en a 3, c'est ça ? Est-ce que tu as suivi une création d'un des 3 ?
Bah oui, alors j'ai pas été aux premières loges, mais on essaye aussi toujours de proposer du bénévolat sur l'installation des parcours. On a aidé à monter les dossiers, on s'entraide en fait, on est quand même pas très nombreux, donc on discute entre nous. Et après, bah, selon l'énergie que la mairie veut y mettre, nous, on peut aussi dire, bah, si c'est nous qui venons planter les poteaux, etc., on peut gagner aussi un petit peu d'argent, un peu de temps.
Mais c'est les mairies qui payent.
Oui, c'est des infrastructures qui appartiennent aux mairies, en fait. Elles sont sur les territoires des mairies, donc, donc on peut pas jouer sans eux.
Et peut-être, je rembobine un tout petit peu, est-ce que, pour revenir sur la fédération, l'organisation, est-ce que du coup il y a une équipe de France aujourd'hui de disc golf ?
Alors équipe, non. Enfin, je pense pas en disc golf qu'il y ait des championnats par équipe, championnats du monde par équipe, auquel on aura une équipe de France. Par contre, on a des joueurs et des joueuses qui vont aux championnats d'Europe, aux championnats du monde. Donc oui, la France est représentée dans ces championnats-là. Et sur le territoire français, on a un événement chaque année qui sont les championnats de France individuels. Donc c'est, on va dire, la compétition phare, on va dire, enfin la principale. On a des championnats de France par équipe qui sont donc c'est des équipes de clubs une année sur deux. Et une année sur deux, ça va être des championnats de France par équipe, mais c'est des équipes de région. Donc chaque région va proposer une équipe, et c'est les régions qui vont se confronter. Donc quand on joue par équipe, c'est un tout petit peu différent, parce qu'on ne va plus compter le nombre de coups, on va compter la différence avec l'autre équipe. Donc ça s'appelle un match play. Donc on va sur un objectif, un parcours, juste gagner des points si on fait une différence par rapport à l'autre équipe. Donc ça change la manière de jouer, parce que y a de la stratégie qui va se mettre en jeu dans l'équipe, et c'est un jeu qui est un petit peu différent.
J'aimerais qu'on aborde la question aussi un peu de la philosophie et de la mentalité un petit peu du disc golf, mais aussi un petit peu de l'ultimate, en tout cas des sports liés au frisbee, au disc. Et avant de continuer, du coup, on va écouter un court extrait sonore de D'ici Gironde, donc c'est France Bleu Gironde. C'est une interview de Pauline Dumas, c'est la championne de France d'ultimate. On écoute ça et on revient ensemble.
Au début, ça a commencé aux États-Unis avec des moules à tarte et ça s'est développé de plus en plus en Europe. Le but du jeu, c'est il y a deux zones en but de chaque côté du terrain et c'est d'attraper le frisbee ou le disque, on peut dire aussi, dans la zone adverse. L'avantage de ce sport, c'est que c'est sans contact et auto-arbitré.
Alors, auto-arbitré. Alors moi, je voulais qu'on parle un petit peu de ça, de l'auto-arbitrage, parce que moi, j'ai découvert l'auto-arbitrage justement quand j'ai découvert l'Ultimate, puis le disc golf. Et du coup, j'aimerais bien que tu nous expliques un peu de quoi il s'agit et en quoi ça vient peut-être un peu modifier la question du sport et de la compétitivité aussi dans ces sports-là.
Eh bien, là, je voudrais commencer un petit peu par rapport aux règles, parce que... En fait, là, on a compris, on a un frisbee, on veut le lancer dans un objectif. On se fait plaisir parce que c'est sympa de voir un disque voler et que on est dehors, on est bien. Mais en fait, très vite, on n'a plus d'objectif, quoi. Si c'est juste de faire ça, je trouve que c'est difficile d'y revenir, de trouver de l'intérêt, etc. Et ce qui va faire que le sport devient intéressant, c'est justement qu'il y a des règles, on va dire, strictes, où, en fait, on va pouvoir se comparer, on va pouvoir se mesurer. Bon, après, si on est compétitif ou on ne l'est pas. Mais je trouve que moi, j'ai du plaisir à essayer de mesurer ma performance, à savoir est-ce que j'ai bien joué, est-ce que j'ai pas bien joué. Et on va rapidement être au coup près. Donc là, je disais tout à l'heure, on a 18 paniers, à peu près 3 coups par panier. Donc on va faire, je ne sais pas, je ne vais pas calculer rapidement, mais un coup de différence va vraiment faire une grosse différence sur notre score. Et du coup, ça demande d'être attentif un peu à chaque fois. Et si on parle d'auto-arbitrage, en fait, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'on va tourner sur le parcours, on va être plusieurs à faire le même parcours en même temps et on va se regarder. On va regarder les autres joueurs. En général, on est 3 ou 4 dans un groupe. et on va regarder les autres joueurs, savoir où les disques sont allés, et on va juger du nombre de coups de notre parcours, mais aussi des gens qui sont avec nous. Et à la fin, on va noter les points tous ensemble, en se mettant d'accord. Oui, tu as fait 3 coups, toi tu as fait 4 coups, ok, on est tous d'accord, on passe à l'étape d'après, et on va regarder la position de ses pieds, la position de son lancer, est-ce qu'on est bien positionné, pas bien positionné, en jugeant ensemble. Et ça amène de la discussion, ça amène, voilà, si on a un doute, on va dire, on va demander à quelqu'un, est-ce que tu penses que je suis bien, je suis pas bien. Et en fait, l'auto-arbitrage, bah, ça nécessite soi-même de connaître les règles, d'être responsable du score qu'on va noter. Et en fait, ça va être un élément de partage, un élément d'apprentissage. Et ça va nous permettre, partout dans le monde, donc moi je me balade, quand je voyage, j'adore ça, je regarde ma carte, je vois qu'il y a un parcours, j'y vais, je vais jouer avec des gens inconnus qui parlent pas ma langue, et ben en fait on se comprend, on est sur le même endroit, on a les mêmes règles, et en fait on peut partager un moment de sport grâce au cadre en fait du sport, quoi.
T'as joué où à l'étranger du coup ?
Bah, j'ai joué en Slovénie, j'ai joué aux États-Unis, j'ai joué en Allemagne. J'ai la chance de voir voyager un peu avec mon boulot et je me trouve un peu du temps à côté pour aller jouer.
Donc les règles sont les mêmes partout ?
C'est ça.
Et auto-arbitrage partout ?
Exactement.
Et est-ce que l'auto-arbitrage, je me demandais à quel point ça tient quand, par exemple, sur l'Ultimate, où on commence à être sur un truc quand même plus collectif, plus, où ça bouge plus, etc., sur un terrain, est-ce que l'auto-arbitrage fonctionne encore ou est-ce qu'on sent que ça a des limites ?
Ben, c'est la force un peu de l'Ultimate, c'est que l'Ultimate aussi, c'est un sport qui a beaucoup évolué ces dernières années, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de monde et puis il y a un niveau qui monte beaucoup. Et pour voir, par exemple, une finale de championnat de France d'Ultimate, où on voit que les équipes sur le terrain sont vraiment très arrachées, avec beaucoup d'énergie. Et en fait, les gens vont crier sur le bord du terrain, mais en fait, ça va être que des encouragements. C'est jamais des insultes. Mmh. Et c'est pas parce qu'on est, je dirais, engagé, qu'on donne toute son énergie dans son sport, en fait, qu'on va pas respecter les règles. Et on peut très bien être arraché, je ne sais pas comment expliquer ça, être quelque part, mettre beaucoup d'énergie dans son jeu, tout en fait, en faisant attention aux autres. Donc les règles principales de l'Ultimate, c'est éviter de faire mal aux autres, d'être de bonne foi, le disque tombe par terre, mais on ne fait pas semblant. Voilà. Donc il y a une responsabilité qui est partagée et ça demande à n'importe quel joueur de n'importe quel niveau d'apprendre les règles. Et donc ça devient un sport et physique et de mental, de maîtrise de soi. Et ça demande de réfléchir en même temps qu'on fait un sport physique. Et c'est ça qui est intéressant, je trouve, dans l'auto-arbitrage, quoi.
Est-ce que tu peux nous parler du tournoi qui arrive ? Parce qu'on t'a aussi invité pour ça, Julien. Il y a un tournoi qui arrive que tu organises à la fin du mois.
C'est ça, là. Donc le 31 janvier, 1er février, là, dans le week-end qui arrive, j'organise un petit tournoi qui n'a pas, c'est pas un enjeu, il n'y a pas d'enjeu compétitif et c'est plus pour découvrir le sport. Donc il y a un tracé de 18 paniers, 18 parcours. Et comme c'est une toute petite orga, on va jouer plusieurs fois les mêmes paniers parce qu'on n'a pas 18 paniers qui sont installés en permanence dans le parc de Jarry. Donc ça se passe à Jarry, dans le parc du Clos Jouvin. Et donc on va rejouer plusieurs fois les mêmes paniers, mais ça nous permet de faire un parcours de 18 trous quand même. Et sur chaque parcours, il y aura un départ normal, donc pour les joueurs un peu avancés, et puis un départ plus proche de l'objectif pour que même des débutants puissent prendre du plaisir. Tout en jouant avec les vraies règles, avec un vrai groupe. Et ce qui est intéressant, je trouve, c'est qu'on mélange tous les niveaux sur la première journée. Et du coup, si on vient et qu'on est débutant, on va faire la première ronde avec des gens qui sont plus expérimentés. On peut leur poser les questions, comprendre comment ça marche, avoir des commentaires. Et puis ben, apprendre en fait, du week-end et commencer à voir ce que c'est que de jouer avec les contraintes des règles, avec les contraintes du groupe et découvrir le sport comme ça.
Donc c'est quand même un bon moment pour venir s'initier.
Voilà.
Mais si on n'a jamais joué, on peut venir.
Si on n'a vraiment jamais joué, c'est un peu dommage parce qu'en fait, il y a une phase d'apprentissage quand même de lancer. Il faut quand même que le disque arrive à voler. Donc, il faut quand même avoir lancé au moins une fois un frisbee. Et puis, il faut connaître au moins les quelques règles de base qui permettent de jouer avec les autres. Donc, ce que je vais faire, c'est que moi, je vais faire des rappels de règles avant le début de la compétition. Donc, on peut aussi apprendre à ce moment-là. Mais effectivement, malheureusement, il faut déjà quand même avoir un petit peu lancé pour pouvoir venir. Mais ensuite, il n'y a pas besoin d'un niveau spécifique, quoi.
Et si on est intéressé pour venir sur le tournoi, il faut s'inscrire, j'imagine ?
Oui, alors on a passé des annonces là sur Facebook ou sur le site de notre club, il n'y aura pas les infos. C'est sur notre Facebook et Insta du club, donc il y a les infos pour l'événement et on utilise un site qui est un site dédié pour le disc golf qui s'appelle Disc Golf Matrix, sur lequel on peut en fait trouver la compétition, avoir toutes les infos d'inscription, etc.
Donc, Frisbee Matrix.
Disc Golf Matrix.
Disc Golf Matrix ou le Facebook des Monkeys.
Sur Facebook des Monkeys, il y a toutes les infos aussi. Il n'y a pas de problème pour s'inscrire. Donc voilà,
c'est payant, c'est gratuit.
C'est payant, donc c'est payant parce qu'on est obligé de... Comme c'est une compétition qui est enregistrée à la Fédé, on a des frais d'enregistrement de compétition, donc c'est payant. Donc c'est 5 euros par personne pour les gens qui seraient déjà avec une licence à la Fédé, et c'est 11,50 € pour les gens qui n'ont pas de licence à la Fédé, puisqu'il faut qu'on leur fasse une licence temporaire pour cet événement-là. Après, c'est assez simple, hein, il n'y a pas besoin de certificat médical ou de choses comme ça. Et voilà. Et donc, il y a une petite particularité à la compétition, c'est que les catégories dans ce sport, il y en a de multiples catégories. Et par exemple, les championnats de France, c'est des catégories d'âge et de sexe. Donc, il y a hommes, femmes, open, moins de 40, moins de 50, etc. Et ça, je trouve des fois que c'est dommage parce que comme on n'a pas un public qui est énorme, et ben, ça fait que les femmes vont se retrouver à très très peu dans leur catégorie. C'est moins challengeant. Et du coup, en fait, il y a d'autres formats qui existent et on les utilise moins, mais c'est dommage. Et là, c'est ce que j'utilise à la compétition, c'est des formats de couleurs. Et donc, chaque couleur représente un certain niveau et on va jouer dans sa tranche de niveau. Et donc, du coup, on efface tous les problèmes, toutes les catégories de genre ou d'âge et on va se mesurer à des gens qui sont dans notre catégorie de niveau et du coup ça rend la compétition, je trouve, plus intéressante,
plus inclusive en plus, ouais.
Voilà, carrément. Plus inclusive.
Puis bon, il y en a un petit peu marre de toujours séparer les hommes, les femmes dans les sports.
C'est ça, parce que je vous assure qu'il n'y a pas de contrainte de genre pour jouer au disc golf. On arrive tous à lancer avec notre main sans aucun problème,
a priori, hein, comme dans tous les sports, ouais. Et dans l'extrait qu'on a écouté tout à l'heure là, de Pauline Dumas, là, la championne de France d'Ultimate, elle parlait aussi des moules à tarte au début là. Et je voulais partager avec toi et avec les auditeurs une petite anecdote qui m'a bien fait marrer quand j'ai préparé l'émission. J'ai regardé un petit peu l'historique justement du disc golf, comment ça s'est créé, etc. Et effectivement, donc, comme d'ailleurs tu nous l'as dit aussi tout à l'heure, ça a commencé aux États-Unis et donc avec des moules à tarte de la Frisbee Pie Company. Et ensuite, dans les années 50, donc toujours aux States, il y a un monsieur qui s'appelle Fred Morrison qui a inventé le frisbee. Et pour le coup, ça y est, en plastique, hein, puisqu'on est dans les années 50 et que le pétrole coule à flot. Et ce monsieur, il s'est fait des millions de dollars avec le frisbee. Et il a vendu le concept à une firme de jouets américaine qui s'appelle Waymo. Et le chef de programme publicitaire de Waymo s'appelait donc Ed Hendricks. Et c'est lui qui a inventé le disc golf en 1976. Et quand ce monsieur est décédé en 2022, il a décidé de faire un truc un peu particulier. On va écouter un extrait. Alors c'est en anglais, mais on se racontera un peu ce qui se dit rapidement. Mais on écoute un extrait et on en reparle après.
We've all seen one of these. Flying discs are synonymous with picnics and summer barbecues. But for the creator, these spinning plastic saucers were part of a lifelong obsession.
Farina Hedrick has traveled all the way across the country to this manufacturing plant so she can add the final ingredient to a very special set of custom-made toys. And, believe it or not, this special one-of-a-kind ingredient is actually her dead husband's ashes.
He wants to fly all the time. He said, when I die, I want to be made on a frisbee.
Alors, donc c'est un extrait de l'émission, d'une émission américaine qui s'appelait Right Place, Believe It or Not. Ça date de 2007. Et en gros, donc l'inventeur Ed Hedrick du disc golf, avant de décéder, il avait demandé à sa femme, il lui avait dit, bah moi je veux voler en fait quand je serai mort. Et donc dans la vidéo, alors vous n'avez pas vu les images, mais on voit sa femme verser les cendres de son mari dans la machine, le moule qui fait les frisbees. Et donc elle a fait un frisbee avec du plastique mélangé aux cendres de son mari, voilà. Dans cette petite émission américaine avec le mec qui vient présenter. C'est, j'ai vu ça cet après-midi, ça m'a bien fait rigoler. C'était une petite anecdote pour finir cette émission. Julien, merci en tout cas, merci beaucoup d'être venu partager avec nous voilà, ta passion du disc golf et de nous faire découvrir, peut-être pour certains le connaissaient, peut-être d'autres non, en tout cas de nous faire découvrir ce sport. Et j'espère que ça va bien se développer dans le coin, et puis vous t'y mets de l'énergie, je sais que t'y mets de l'énergie. Et donc on vous rappelle, il y a un tournoi à la fin du mois, 30 janvier, 1er février.
Ouais, il faut s'inscrire vite par contre.
Ouais, c'est déjà bien complet. Et si en tout cas vous n'y avez jamais joué et que l'émission vous a donné envie d'aller voir comment ça se passe, vous pouvez déjà aller au tournoi ou contacter les Monkeys à n'importe quel moment de l'année et vous tomberez sur le beau sourire de Julien qui vous accueillera et qui vous fera découvrir
avec plaisir
le disc golf. Merci à toi.
Merci beaucoup.
Salut.
Au revoir.
Et c'était quoi ? L'apérophonie ! Ouais, mais c'était quoi ? L'apérophonie ! C'est quoi ? L'apérophonie ! Quoi ? Sur Campus Grenoble ! Sur quoi ? Sur le 90.8 ! Ah, sur Campus Grenoble 90.8 ! Oui !